Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Nous sommes vendredi 27 mai 2022. Vous êtes bien sûr la radio Nzamba Gate Kakawe. C'est l'heure du journal. Donc voici d'abord les titres. Quand le parent n'est pas là pour payer l'impôt, c'est l'enfant ou le domestique qui sont séquestrés par les collecteurs d'impôts. Cela se passe à Muyinga. Ils viennent de passer 5 ans et demi en prison sans comparaître. Ils, ce sont les 21 militaires poursuivis dans l'affaire de l'attaque du camp Mukoni en province de Muyinga en janvier 2017. Akat Burundi dénonce les illégalités dans ce dossier. Donatel a été enterré en 2010. Le personnel de cette entreprise révèle deux décisions qui ont été prises par le gouvernement et les responsables de Donatel, faisant ainsi chuter de manière inéluctable son chiffre d'affaires. Voilà pour le sommaire. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Le désordre et les irrégularités émaillent la campagne de collecte de l'impôt faussier en commune de Muyinga, au nord du pays. Les agents chargés de cette collecte s'en prennent aux enfants et aux domestiques lorsqu'ils ne trouvent pas à la maison ni le chef de ménage ni son conjoint. Ils obligent alors l'enfant ou le domestique de les suivre pour contraindre le parent à aller payer cet impôt. Pierre Gahungu.
Cette campagne de collecte de l'impôt foncier auprès des contribuables en retard est à sa deuxième semaine. Les contribuables déplorent le comportement hors norme de ces collecteurs qui, une fois ne trouvent pas le chef de ménage ou son conjoint à la maison, embarquent manu militari le domestique ou un enfant majeur sous un œil inquisiteur d'un policier, et cela pour contraindre le chef de ménage à payer l'impôt sans tarder. Une façon de faire très critiquée par certains contribuables. Pour eux, c'est une privation pure et simple de la liberté à ces personnes arrêtées par des préposés de la commune Muyinga. Ils demandent à l'administrateur de la commune Muyinga d'instruire ses agents à respecter la loi et de ne plus obliger les gens qu'ils trouvent à domicile de les suivre, car le retard dans le paiement est sanctionné par une amende. La radio Nzamba n'a pas encore trouvé par téléphone l'administrateur de la commune Muyinga pour avoir sa version des faits.
Restons dans cette partie du pays pour parler des inquiétudes au sein des parents des enfants en bas âge en province de Ngozi. Ils craignent que leurs enfants n'attrapent la malnutrition. C'est suite à la mesure prise par les autorités interdisant la consommation du lait de vache et de chèvre après avoir découvert la fièvre de la vallée du Rift chez les bovins et les ovins. Les parents demandent au service vétérinaire de tout mettre en œuvre afin de sauver rapidement le bétail. Josine Kazé pour les détails.
Depuis l'apparition de la fièvre de la vallée du Rift, cela fait 2 mois, les autorités de la province Ngozi ont arrêté des mesures interdisant la consommation des produits d'origine bovine et caprine. Même si ces mesures ont été prises dans l'objectif de protéger la population, les inconvénients ne manquent pas. Les parents craignent que leurs enfants n'attrapent des maladies carentielles, dont le kwashiorkor. Écoutez les inquiétudes de cet habitant.
Ça fait déjà une semaine que la consommation du lait est interdite. On a refusé sa commercialisation. Nos enfants sont victimes. Il n'y a pas de sucre pour leur faire de la bouillie ou du thé. Nos enfants vont souffrir à cause du manque de lait. Ils risquent d'attraper des maladies carentielles comme le kwashiorkor. La situation est très délicate.
Il demande aux autorités vétérinaires de s'impliquer pour trouver le remède et soigner le bétail, sinon tout le monde sera frappé par les retombées, surtout que la maladie gagne progressivement d'autres provinces.
Nous demandons aux autorités chargées du département de l'élevage de soigner nos bétails, sinon tout le monde paiera le coût, surtout que la maladie se propage dans d'autres provinces.
La rédaction de la radio Nzamba n'a pas pu joindre par téléphone Priva Walikuyayo, directeur provincial du service vétérinaire à Ngozi, pour qu'il informe l'opinion sur l'état de la situation et sur ce qu'on est en train de faire pour protéger le bétail.
Réduire considérablement le taux de mortalité maternelle d'ici 2030, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le ministère de la Santé. Déclaration faite ce vendredi par le secrétaire permanent de ce ministère, c'était lors du lancement des activités de la Journée internationale de la sage-femme à l'Institut national de la santé publique. Selon une étude réalisée en 2017, 334 sur 100 000 femmes sont mortes pendant l'accouchement, D'où la nécessité d'augmenter le nombre de sages-femmes pour sauver des vies. On écoute Jean-Baptiste Nzorilonga-Nevié, secrétaire permanent au ministère de la Santé.
Selon les normes de l'OMS, on devrait avoir au moins un sage-femme pour 5000 habitants. Mais pour le moment, nous voyons qu'au Burundi, nous avons un sage-femme pour 50 000 habitants. Donc il y a encore un pas à faire dans l'augmentation des ressources humaines de cette catégorie. Selon les résultats de l'enquête démographique de santé de 2017, nous enregistrons 334 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et nous avons l'objectif de réduire les décès jusqu'à 140 d'ici 2030. C'est une préoccupation du gouvernement à travers le ministère de la Santé de réduire ce taux de mortalité. C'est pourquoi chaque année, le gouvernement accorde un personnel au ministère de la Santé publique à recruter pour que ce personnel soit après réparti dans les différentes formations sanitaires pour appuyer les équipes qui sont là, étant donné qu'il y a encore une insuffisance par rapport aux professionnels de santé dans les différentes structures sanitaires. En accroissant son nombre de prestataires, et avec également les différentes sensibilisations du ministère, nous sommes conscients que cet objectif sera atteint.
Parlons cette fois de la grogne d'autres parents. Il s'agit de ceux de 105 élèves de la 9e année à l'école fondamentale Mutakura, c'est en mairie de Bujumbura. Pour cause, leurs enfants viennent de passer presque une semaine sans étudier parce que les parents ont refusé de payer un montant de 1000 francs burundais pour les examens de 3e trimestre. Les parents estiment que la direction cherche à détourner son montant parce que leurs enfants ne sont pas concernés par ces examens car ils vont passer le test national. Les détails avec Benny Axela Khan.
Les informations recueillies par la radio Inzam au sein de certains parents des élèves de la 9e année à l'école fondamentale de Mutakura disent que leurs enfants viennent de passer toute une semaine sans étudier. C'est suite au refus des parents de payer un montant de 1000 francs burundais, soi-disant pour les examens du 3e trimestre. Ces parents ne voient pas la raison de payer ces frais du moment que leurs enfants vont passer uniquement le concours national. Ils trouvent que le directeur de cet établissement cherche de l'argent à détourner.
Aujourd'hui, comme il a l'habitude de le faire, il vient d'apporter quelque chose de nouveau. L'année passée, les parents des élèves de la 9e année à l'école Mutakura ont payé 1000 francs, soi-disant pour la passation des examens du 3e trimestre. Ces examens n'existent pas puisqu'il y a passation du concours national. Cette année, avec cette misère sans nom, où on n'arrive même pas à nourrir nos enfants, nous avons décidé de ne pas payer ces frais qui ne sont pas du tout justifiés. C'est vraiment du vol organisé.
Les parents regrettent que leurs enfants sont en train de perdre énormément parce qu'ils n'ont pas le temps de réviser la matière pour se préparer à l'examen national.
Maintenant, nos enfants n'étudient plus. Ils ne font même pas les exercices choisis au niveau des communes pour se préparer à l'examen national à cause de son montant de 1000 francs. Nos enfants souffrent énormément. Comment voulez-vous qu'ils réussissent l'examen alors qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer?
La rédaction de la radio Inzamba a appelé par téléphone Jean-Paul Wigilimana, directeur de l'Ecofo Mutakura, pour des éclaircissements sur les allégations portées contre lui, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Inzamba. 2009 est l'année où la tombe de Donatelle a été creusée. C'est en effet l'arc de mesures qui ont été prises par le gouvernement burundais et les responsables de Donatelle sont considérés comme étant à l'origine de sa faillite. La première est la libéralisation du capital de l'entreprise, l'autre étant la suspension au même moment de tous les investissements de l'entreprise. C'est ce que révèle le personnel de Donatelle dans un document récemment publié, Georges Nimeigne.
Dans son document des contributions du personnel de Donatelle, ils indiquent que vers la fin de l'an 2009, le gouvernement du Burundi a pris une décision de libéralisation du capital de Donatelle. Cette libéralisation devrait permettre aux autres investisseurs d'injecter les actions dans le capital de cette entreprise. À cette même époque, le directeur général de Donatelle a ordonné la suspension de tous les investissements jusqu'à la fin d'une étude qu'il avait commanditée. Cette dernière devra déterminer la valeur de l'entreprise pour faciliter l'entrée des actions des entrepreneurs. L'entrée des actions des particuliers n'a jamais eu lieu et jusqu'à ce jour, les investissements de Donatelle sont toujours suspendus. Le personnel de Donatelle indique que la régression de Donatelle Nater a pris des pas sur cette double décision qui a mis l'entreprise dans une situation très difficile.
En 2009, le Natel avait un capital de 20 milliards. Il y a eu la décision de libéraliser l'entreprise, mais les investisseurs n'ont jamais amené leurs capitaux. Mais la suspension de tous les investissements a occasionné des pertes énormes et a amené l'entreprise au bord du gouffre. Toutes les décisions émanent du propriétaire de l'entreprise qui est l'État. L'entreprise n'achetait plus des matériaux nécessaires parce que l'investissement avait été suspendu. C'est en cette manière que l'entreprise est allée en régression.
L'autre facteur ayant entraîné la faillite de l'entreprise étant l'octroi des marchés gré à gré, comme le souligne le même document. L'actionnariat dans différentes entreprises naissantes a également entraîné la régression de l'ONATEL. Exemple que nous pouvons constater dans ce document est l'action qui s'évalue à 60 000 $ américains donnée par l'ONATEL à la société EABS, East African Backhaul System, une société qui n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui.
C'est de cette manière que l'ONATEL est tombé en faillite, jusqu'à ce que nous ayons aujourd'hui le chiffre d'affaires de 5 milliards. Avec une dette de plus de 17 milliards, dont 8 milliards sur les arriérés du salaire du personnel, nous ne recevons plus le paiement mensuel depuis le début de l'année. Les paiements en dehors des salaires nets ne sont plus octroyés au personnel de l'ONATEL il y a de cela plus de 5 ans. C'est-à-dire les paiements des dettes contractées, les cotisations de la sécurité sociale, les cotisations dans différentes associations. Nous venons de passer plus de 5 ans sans avoir notre salaire au complet.
Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des solutions proposées par le personnel pour relever cette entreprise de presque à l'agonie.
Plus de 50 sacs de sucre ont été saisis dans la matinée de ce vendredi à Rumonge. La population dénonce des irrégularités chaque fois qu'il y a distribution du sucre dans cette ville. Les habitants demandent à l'administration de prendre en main cette question afin d'éviter le favoritisme. On en parle avec Vanessa Muhitek.
Selon les informations recueillies dans cette province de Rumonge, une partie du sucre a été trouvée au marché central, l'autre partie chez certains commerçants. La distribution du sucre a commencé dans cette province depuis ce mercredi. La population s'est présentée pour être servie. La plupart d'entre eux se sont alignés, mais ils ont été alarmés par un groupe de gens qui étaient en train d'être servis alors qu'ils venaient d'ailleurs. Ce qui a suscité ce jeudi un mécontentement chez la population qui est rentrée sans être servi. Cependant, certains responsables administratifs se partagent ce produit pour le vendre à un prix élevé. La population demande au gouvernement de revoir à la baisse le prix du sucre et demande également de punir sévèrement les administratifs qui s'enrichissent dans la spéculation de la vente du sucre à un prix élevé. Suite à ces lamentations des habitants de Rumonge, la radio Inzamba n'a pas encore eu la version du consulateur Nitunga, gouverneur de la province Rumonge.
Merci Vanessa, et pour terminer, plus de 4 ans viennent de s'écouler sans que les 21 militaires accusés dans l'affaire de l'attaque du camp militaire de Mukoni en province Muyinga aient été appelés à comparaître. Regret de l'Organisation de défense des droits de l'homme à Katburundi, dans une déclaration sortie ce vendredi, à Katburundi dénonce plusieurs irrégularités qui entourent la procédure dans l'affaire. Selon Jean-Claude Niburumunsi, chargé des questions juridiques au sein de cette organisation, c'est une attitude adoptée par la justice burundaise envers des détenus qui sont poursuivis pour des infractions ayant trait à la politique. Suivez.
Dans notre déclaration, nous revenons sur les actes de torture subis par les prévenus au niveau du service national de renseignement à Muyinga, et dont le responsable de ces atrocités était Gérald Ndayisenga, qui était à l'époque le responsable du service de renseignement à Muyinga. Nous dénonçons aussi l'absence d'un assistant judiciaire au moment des interrogatoires, que ce soit au niveau du service national de renseignement ou au parquet. Nous dénonçons aussi que ce dossier a été mis dans les dossiers qui devaient être poursuivis dans la procédure de flagrant, alors que ce n'était pas justifié, parce que normalement le dossier est mis dans cette procédure de flagrance lorsque le poursuivi a été attrapé au moment où il était en train de commettre l'infraction, mais ce qui n'est pas le cas pour ces prévenus. Nous dénonçons aussi une procédure lente malgré cette procédure de flagrance qui a été mise en place en fait pour accélérer la procédure. Vous savez que pour cette procédure, il est compté 45 jours pour terminer avec un dossier allant de la première instance jusqu'à la cassation. Mais pour ce dossier, les prévenus ont saisi la Cour suprême dans sa chambre de cassation en 2018, mais maintenant on est en 2022, et vous voyez, il y a déjà 4 ans, et cette affaire n'a pas abouti jusqu'à présent. Nous recommandons en fait au gouvernement du Burundi et surtout au ministère de la Justice de se ressaisir et de faire respecter la loi, et surtout la loi de procédure qui est d'ordre public et dont il revient en fait la responsabilité de l'État, du ministère de la Justice, de la faire respecter.
Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Gatenga Kawe pour la production de ce journal. Merci à vous toutes, tous, chers auditrices, auditeurs de la radio Inzamba Gatenga Kawe. Au revoir et à la prochaine.